Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous en cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous soit douce et heureuse. Évidemment, j'espère que cette année sera riche en initiatives positives, en projets innovants et inspirants qui apportent espoir et courage. Mon invitée du jour est sans aucun doute inspirante. Elle s'est donné une mission, améliorer l'alimentation des personnes fragilisées. Pour ce faire, Sandra Rigal-Vadel a créé WasteCo, une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements collectifs tels que les EHPAD ou les centres d'accueil pour personnes handicapées. La mission de Sandra va bien au-delà du gaspillage alimentaire. Elle utilise le gaspillage comme un levier permettant de retravailler le plan alimentaire de l'établissement en intégrant davantage de fruits et légumes de saison ou encore en repensant les saveurs et les goûts proposés aux résidents. J'ai beaucoup aimé rencontrer Sandra à Marseille et enregistrer cet épisode avec elle, et je tenais vraiment à le garder pour ce début d'année, car je le trouve particulièrement inspirant. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandra.
Bonjour Jeanne.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Je suis ravie de vous retrouver ici à Marseille. Voilà, ça fait un petit moment qu'on échange. Et puis le Covid a repoussé nos plans d'interview, mais ce n'était que partie remise. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Un sujet que je n'ai pas eu la chance d'aborder, ou en tout cas que je n'ai abordé que très peu sur le podcast. Donc je suis ravie que vous puissiez éclairer notre lanterne à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors je suis Sandra Rigal-Vadel, j'ai 50 ans et je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle WasteCo, qui a été créée à Marseille. WasteCo, c'est une société qui accompagne les établissements qui proposent de la restauration collective dans le cadre de la maîtrise de leur gaspillage alimentaire. Voilà. Quand je parle d'établissements qui proposent de la restauration collective, je parle d'établissements qui, tels que les hôpitaux, les EHPAD, les institutions médico-sociales. C'est notre cœur de cible, c'est les établissements dans lesquels on intervient actuellement. En fait, ce sont des établissements qui accueillent des personnes fragilisées. Je dirais que c'est le maître mot chez WasteCo, c'est la fragilité et l'alimentation.
Pourquoi la fragilité ? Pourquoi est-ce que c'était un sujet qui vous tenait à cœur ? Comment est-ce que vous vous êtes posé la question un jour de vous demander qu'est-ce que mangent les personnes en situation de handicap, les personnes âgées en EHPAD ? Pourquoi ce sujet-là qui est finalement un sujet peu connu ?
Alors déjà, ça a commencé de manière assez égocentrée. C'est-à-dire que quand on fait des petits séjours à l'hôpital, même des courts séjours, hein, on se rend bien compte que l'alimentation... Bon, une fois que la pathologie est prise en charge, bien entendu, c'est ça, quand même la fonction d'un hôpital. Une fois que la pathologie est prise en charge, le sujet vraiment qui revient, c'est la qualité de l'alimentation. Hein. On a tous plus ou moins toujours été... Enfin, un jour été hospitalisés. Et puis, on se fait apporter des petits plats... le soir ou par nos parents ou par nos amis, parce que ce que l'on mange à l'hôpital souvent n'est pas extrêmement goûteux, on va dire ça comme ça. Et puis après, donc la fragilité plus largement, parce que effectivement, moi j'ai été touchée par des personnes autour de moi qui étaient en EHPAD, que j'ai visitées bien sûr, et aussi des personnes en situation de handicap qui étaient prises en charge dans des IME ou des femmes, enfin des institutions médico-sociales. Et effectivement, on a la même problématique, c'est-à-dire qu'une fois que, alors pour les EHPAD, la pathologie est prise en charge, l'alimentation, c'est synonyme de plaisir. C'est un des premiers plaisirs dans ces institutions-là. Et souvent, de la même façon, on ne retrouve pas toujours des plats très goûteux. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis d'aller sur ce terrain-là. C'est de se dire qu'il y a des personnes en France, dépendantes, en situation de handicap, qui mangent tout leur repas dans un établissement et qui, malheureusement, toujours n'y trouvent pas toujours le plaisir attendu.
Et donc, pour créer cette aventure, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Donc vous étiez parti de ce constat du point central que représente l'alimentation dans nos vies.
que l'on soit en situation de handicap, que l'on soit une personne fragilisée, une personne âgée. Comment est-ce que vous avez avancé ensuite, développé cette idée pour réussir à concilier écologie, éco-responsabilité et alimentation ?
En fait, cette idée est née d'un projet associatif, initialement. Effectivement, je suis aussi présidente d'une association qui a porté en 2018 un projet effectivement de gestion, de maîtrise du gaspillage alimentaire dans ces établissements-là. Si je fais un petit peu la genèse, en fait, effectivement, bon, comme je suis toujours, donc j'ai toujours été touchée par cette problématique-là de la fragilité de l'alimentation, et je me suis dit, ben, est-ce qu'on peut faire bouger les choses à l'époque ? C'était en 2018. J'ai un parcours très classique d'école de commerce, consulting, etc. pendant 20 ans. Donc à l'époque, j'avais 45 ans et toujours très touchée par l'alimentation, j'ai voulu faire un CAP de pâtisserie. Donc j'ai vraiment, j'ai un peu baigné dans ce milieu-là. Et à ce moment-là, quand j'ai été touchée personnellement par des personnes fragiles, dont l'alimentation laissait peut-être à désirer parce qu'elles étaient dans des établissements, comme je les ai mentionnés, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça peut changer, quoi ? Pourquoi c'est comme ça et est-ce que ça peut changer ? Donc j'ai interviewé un certain nombre de directeurs d'EHPAD, principalement des directeurs d'EHPAD, quelques-uns directeurs d'établissements médico-sociaux, en leur demandant, mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça change, en fait, tout simplement ? Et en fait, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient faire changer les choses, mais qu'il y avait un point très important qui posait souci, c'était le coût alloué à l'alimentation dans ces établissements-là. Il faut être très clair, le coût sur 3 repas par jour et une collation dans cet établissement-là tourne entre 4,70, 5 euros par jour.
Par jour.
Par jour. Donc ils m'ont tous dit, mais nous on aimerait faire mieux, mais avec ce coût-là, c'est très compliqué, quoi. Voilà, on ne peut pas manger du foie gras tous les jours, ce que je pouvais tout à fait comprendre. Néanmoins, ils étaient tous très volontaires pour faire bouger les choses et puis pour améliorer ça. Hein. Il n'y avait pas de sujet. Donc on était en réflexion pour se dire, bon, avec ce coût-là, comment on peut faire bouger les choses ? En parallèle, c'était en 2018 et il y avait les états généraux de l'alimentation. Vous avez dû en entendre parler, voilà.
Tout à fait.
Qui ont donné lieu à la mise en place d'une loi en octobre 2018 qui s'appelle la loi Egalim, qui touche beaucoup de sujets, mais notamment la restauration collective. Et cette loi impose à la restauration collective, à partir de janvier 2022, de pouvoir constituer ses menus avec 50% de produits à label, dont 20% de bio. Alors, c'est en valeur d'achat. Donc, imaginez déjà que ces établissements ont des coûts extrêmement serrés, mais en plus de ça, il va falloir, avec les mêmes coûts, pouvoir faire 50% de label et 20% de bio, ce qui est quasiment impossible. Mais la loi Egalim a remonté aussi un levier pour pouvoir faire des économies, c'est le gaspillage alimentaire qui est généré par ces établissements-là, qui est énormissime. Donc dans les chiffres du gaspillage, on peut évaluer à plus de 2,7 milliards d'euros le coût du gaspillage alimentaire en restauration collective en France, tout compris. C'est énorme, c'est colossal. Et donc la loi Egalim oblige aussi ces établissements à mettre en place des diagnostics de gaspillage alimentaire à partir de janvier 2022. Ce qui fait que en réduisant son gaspillage alimentaire, on réduit les volumes, les commandes, les coûts, et on peut réallouer ces coûts-là sur des produits à meilleure valeur ajoutée. Et donc on s'est dit, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça va fonctionner ? On est en 2018. Est-ce que cette loi, alors bien entendu, la loi s'est appuyée sur des chiffres avec des expériences déjà réalisées qui étaient probantes, mais on s'est dit, est-ce qu'on peut le mettre en place partout ? Et c'est de là qu'on s'est dit, on va travailler sur des diagnostics de gaspillage alimentaire dans des établissements qui sont partenaires, qui souhaitaient travailler avec nous. On l'a fait dans un cadre associatif initialement. À Marseille, enfin dans la région du 13, des Bouches-du-Rhône, nous avons fait 4 études de diagnostic de gaspillage alimentaire auprès d'établissements divers et variés, des établissements urbains, des établissements plus ruraux, dans les Alpilles par exemple, où ils travaillaient déjà avec des produits frais, etc. Ils faisaient déjà travailler les producteurs locaux, etc. Des petits établissements, des plus gros. Et on a fait une étude dans un cadre associatif initialement, pour savoir si nous... Déjà pour faire des diagnostics de gaspillage et pour savoir si ces chiffres étaient justes. Effectivement, on est à 20-30% de gaspillage alimentaire dans ce qui est produit dans ces établissements-là, ce qui est énorme. Et ensuite, de se dire, bah, si on le diminue, ce gaspillage, est-ce qu'on peut le rallouer vers des produits avec meilleure valeur ajoutée? Et en fait, à l'issue de cette étude qui a duré une année, on a eu d'excellents résultats. Et de ce fait, c'est comme ça que Wesco est né, puisqu'en fait, à l'issue de cette étude, on l'a arrêté. Et on s'est dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Enfin, c'est dommage, on a une étude probante, on arrive à accompagner les établissements dans la réduction et la maîtrise de leur gaspillage alimentaire. Et du coup, c'est comme ça que Wesco est né, en se disant, bah, on va créer une offre pour pouvoir accompagner ces établissements-là. Et la particularité de notre offre, c'est que le gaspillage alimentaire, on entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, et puis il est pris sous divers axes, en fait. Hein. Souvent le déchet ou même la réutilisation des surproductions. Et nous, on s'est dit que le meilleur déchet, c'était celui qui n'était pas produit, clairement. Et donc, on s'est positionné vraiment sur le côté santé-nutrition. Et nos études, la particularité de nos études que l'on a fait dans le cadre associatif, mais maintenant dans le cadre de Wesco, c'est qu'on ne fait intervenir que des diététiciennes. Toutes les personnes qui interviennent dans nos études anti-gaspillage alimentaire sont diététiciennes. Donc, ont cet aspect, bien sûr, écologie, hein, bien entendu, économique, parce que c'est un aspect important, mais aussi nutrition santé, pour pouvoir voir rapidement dans le diagnostic de gaspillage alimentaire ce qui est donné aux résidents ou aux patients et jeté systématiquement, pour des raisons diverses, hein, pas forcément parce que c'est mal cuisiné, mais pour des problématiques de texture, de régime et autres, et de pouvoir très rapidement, même dans la mission, le pouvoir le changer et faire des propositions à valeur nutritive équivalente. Ce qui fait que c'est extrêmement vertueux parce qu'on peut très vite avoir des actions concrètes de changement et diminuer le gaspillage alimentaire de manière assez drastique et de manière assez rapide.
Mais donc vous vous intéressez à des établissements qui ont ce service de restauration en interne et pour lesquels ce n'est pas externalisé, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est bien souvent externalisé.
Alors, on a commencé, effectivement, notre étude que l'on a faite dans un cadre associatif concernait 4 établissements qui étaient en restauration internalisée. Mmh. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était beaucoup plus facile de maîtriser l'ensemble du flux.
Bien sûr, et d'avoir un impact aussi.
D'avoir un impact, d'avoir des personnes vraiment impliquées dans la démarche, parce que c'est fondamental la conduite du changement, hein, dans les équipes internes. Donc effectivement, pour nous, ça nous a paru le plus logique. Néanmoins, on commence à travailler avec des établissements qui ont des cuisines sous-traitées par des grands acteurs de la restauration collective qui... eux confirment qu'ils ont la maîtrise du gaspillage alimentaire. Quand ils servent des repas, ils disent ben, tout ce qui est en amont sur la production, ça c'est géré par eux, ça il n'y a pas de sujet et ça on ne revient pas dessus. Par contre, ces structures-là sont incapables de regarder au sein des établissements le gaspillage de consommation. Et il est là le problème, c'est le gaspillage de consommation. Conserve, il y a des grilles de toute manière, donc là il n'y a pas de sujet, mais globalement, une personne, un résident, une personne, un patient, doit manger à peu près 500 grammes de nourriture par repas. En gros, hein, entre les différents composants, entrée, plat principal, dessert, etc. Donc que fait une société sous-traitante de la restauration, acteur de la restauration collective? Elle garantit qu'ils ont leurs 500 grammes. Mais derrière, ils ne vont pas vérifier sur place que les gens l'ont bien mangé. Oui, non, et pourquoi? S'ils ne l'ont pas mangé. Et quel est le taux du gaspillage? Donc, eux, je dirais qu'ils arrivent à maîtriser, plus ou moins, le gaspillage de production. Dans ces cas-là, on intervient sur le gaspillage de consommation. Et on retourne vers les directions en disant, mais ok, mais ils ont donné le grammage, probablement, enfin, ça respecte bien, mais derrière, ce n'est pas mangé. Et ça, ils ne le voient pas. Donc, comment, pourquoi ce n'est pas mangé? Il peut y avoir diverses raisons, à nous de les analyser et à nous de revenir vers la direction en disant, je donne n'importe quoi, je vais vous donner un exemple très concret. En EHPAD, on peut être amené à servir du coleslaw. Vous voyez ce que c'est le coleslaw? Donc c'est effectivement du chou blanc et de la carotte avec une espèce de mayonnaise. C'est très peu mangeable par des résidents parce que la texture ne convient pas. Donc quand on rentre du coleslaw et qu'on se rend compte qu'il y a 80% de gaspillage alimentaire sur le coleslaw, les sociétés prestataires ne le savent pas. Donc du coup, nous, on est censé revenir vers la direction, qui revient vers les vers ces structures-là en disant, bon, le colso, vous arrêtez dans les menus, quoi, parce qu'ils ne choisissent pas leurs menus, vous arrêtez. Et ça, c'est valable pour tous. En analysant le gaspillage, on peut être amené à refondre quasiment 50% des menus. Et à faire une proposition de refonte de quasiment 50% du menu. On est amené maintenant, au-delà du gaspillage alimentaire et des diagnostics de gaspillage alimentaire, on fait beaucoup de missions de revue du plan alimentaire, puisqu'on travaille avec des diététiciennes qui sont tout à fait légitimes et en mesure de faire ces changements-là. On revoit le plan alimentaire, on revoit les menus, et on réintègre des légumes, des fruits de saison. On travaille sur les textures. Les personnes en situation de handicap, ils ont des problématiques, ils mangent beaucoup de féculents, peu de légumes, mais nous on propose de travailler différemment en flan par exemple, on les rend un peu invisibles, en purée, ils les voient moins, ils les mangent mieux. Donc voilà, on a un travail, je dirais, qui le gaspillage alimentaire pour nous c'est un enjeu, mais c'est un levier. C'est un levier pour rentrer dans ces établissements-là et pour faire en sorte que ces établissements considèrent l'alimentation comme vraiment au cœur de leur projet d'établissement. Voilà.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est que le prestataire externe, finalement, ne s'intéresse pas à ce qui est jeté par la suite. Mais c'est un schéma de fonctionnement qui est assez atypique. On produit de la nourriture sans rechercher derrière si ça a plu ou pas, comment est-ce que je peux m'améliorer, etc. Finalement, c'est assez rare, puisque les chefs, par exemple, dans les restaurants, vont aller à la rencontre des clients et des clientes qui sont attablés dans leur restaurant pour savoir comment ça s'est passé, prendre les retours, les serveurs font les retours aussi. Et là, on était vraiment sur un schéma qui était complètement compartimenté.
Oui, ils ne s'y intéressent pas. Bien sûr qu'ils je dirais qu'ils peuvent s'y intéresser, mais de manière qualitative et de manière non régulièrement. C'est-à-dire quand il faut renégocier les contrats, souvent, effectivement, il y a des retours qui sont faits au niveau qualitatif. Et mon idée, notre approche n'est pas de jeter la pierre aux acteurs de la restauration collective.
Ah non,
collective.
Pas du tout.
Voilà. C'est plus de se dire qu'on est complémentaire. En fait, on est complémentaire. Et en fait, oui, ils s'y intéressent qualitativement, mais quantitativement, clairement pas, puisqu'ils n'ont pas les chiffres. Puisqu'ils ne font pas de pesée. Hein. Nous, on travaille vraiment avec des pesées, des déchets sur place. On travaille pendant une semaine. On regarde tous les repas. On travaille par composants. Donc, on est vraiment... on a ce niveau de détail-là. L'idée à terme, ça serait de travailler en partenariat. Et c'est de dire, nous, on fait ce travail-là de gaspillage. Vous assurez le gaspillage de production. Nous, on travaille sur le gaspillage de consommation. Et l'idée, c'est de travailler en collaboration pour améliorer collectivement les choses. Et je dirais que la pierre angulaire de ça, c'est la direction de l'établissement qui, elle, fait ce lien-là et qui fait ce lien pour le moment entre nous, hein, parce que nous, on n'est pas directement les restaurations collectives, et a un pouvoir majeur pour faire changer les choses. Et je le vois aujourd'hui quand on travaille dans nos missions, la direction, elle est tout à fait en mesure de changer radicalement les choses à l'intérieur de son établissement. Elle est autonome là-dessus, dans la mesure où les coûts sont gérés. Effectivement, nous, on est plutôt, je dirais, à la fin du processus, et on est vraiment dans l'accompagnement des résidents, on fait des réunions d'animation avec les résidents, qui souvent ont, pour ceux qui sont verbaux, hein, ont des vrais desiderata en matière d'alimentation, et souvent, on ne les fait pas, les commissions menus, ce qu'on appelle les commissions menus qu'on peut voir dans les cantines, par exemple, scolaires, sont peu existantes dans ces établissements-là, alors que ce sont des vrais leviers d'amélioration.
C'est incroyable, et en fait, c'est vrai que si votre projet n'avait pas croisé ma route, je ne sais pas si je me serais vraiment posé la question. Je me la suis posée avec mes grands-parents à l'EHPAD, comme je vous le disais avant qu'on débute l'interview, et parce que c'était effectivement très important pour eux. Pour autant, j'oubliais avec bêtise les personnes en situation de handicap et toutes les personnes qui sont dans des établissements et qui n'ont aucun contrôle de ce qu'ils vont pouvoir manger, de ce qui leur est servi et de l'impact aussi que cela peut avoir sur notre morale, sur notre énergie, sur notre joie de vivre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu mesurer ou que vous avez pu constater avec les diététiciennes, par exemple ?
Alors, oui, clairement, et à chaque mission. quand vous disiez, je n'avais pas idée, enfin, ça ne me venait pas forcément à l'esprit, tout ce monde-là de personnes qui sont complètement dépendants pour leur repas. C'est normal parce qu'ils sont cachés. Enfin, voilà, c'est comme en ce moment, on parle beaucoup des EHPAD, mais dans ces structures-là, voilà, on n'a pas forcément quelqu'un en situation de handicap autour de nous et donc on n'a pas forcément la possibilité d'aller dans ces centres-là. Autant l'EHPAD, ben, souvent, ça nous arrive un petit peu plus parce qu'on a des grands-parents ou des arrière-grands-parents, mais le monde du handicap est un peu différent pour ça. Il faut vraiment être touché de près pour pouvoir rentrer dans ces centres-là, qui sont pour la plupart très bien au demeurant. Et pour, oui, effectivement, alors pour les EHPAD, c'est incroyable parce que effectivement, quand on arrive à faire des deux campagnes à 6 mois d'intervalle et qu'on arrive dans la deuxième campagne à pouvoir réintégrer des fraises de saison, et des, pas des fraises d'Espagne, et des fraises des Alpilles, parce qu'on est, nous, dans une région extrêmement productrice, quoi. Et donc, c'est quand même très dommage d'aller chercher des fruits et des légumes ailleurs que dans notre région. On a la plaine de la Croix, on a Aubagne, on est riche de tous ces producteurs-là et qu'il faut faire travailler aussi, ce qui couvre le côté territorial aussi, hein, puisque notre enjeu, c'est, on l'a vu, économique, écologique, nutritionnel, de santé, mais aussi territorial. C'est faire travailler nos territoires pour les personnes fragiles qui y vivent et qui y sont résidents. Mais effectivement, alors pour les personnes EHPAD, clairement, on voit la différence et le plaisir de manger parce qu'ils verbalisent très bien. Et pour les personnes en situation de handicap, de la même façon, on voit vraiment la joie dans leurs yeux, ou même ils le verbalisent quand ils mangent des produits meilleurs. Alors, par exemple, pour les personnes en situation de polyhandicap, ce sont des personnes qui mangent ce qu'on appelle texturé, c'est-à-dire qui mangent mixé. En termes d'hygiène, le mixé, c'est très réglementé, hein, on ne peut pas mixer n'importe comment, etc. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des techniques, nous, il existe des techniques pour mixer des hamburgers, pour mixer des pizzas. Et quelqu'un qui est polyhandicapé, quand le dimanche soir il est chez lui, on peut, ou même il rentre au centre, il peut manger une pizza, comme nous on va se dire, je vais commander une pizza le dimanche soir, comme ça j'ai pas envie de cuisiner. Mais une pizza, ça se mixe. Et quand on arrive à expliciter effectivement que l'on peut mixer ce genre de produit, et qu'on voit une personne en situation de polyhandicap manger un hamburger mixé, ou même en EHPAD, hein, j'ai vu des exemples, je les ai même filmés, des exemples de croque-monsieur mixé, on a un rendu gustatif qui est excellent. Excellent, c'est le croque-monsieur mixé. Pourquoi se priver de ça ? On voit tout de suite, quand on voit manger le même, pourquoi les personnes qui mangent mixé n'auraient pas le même repas que leur copain à côté qui mange non mixé, enfin le résident d'à côté qui mange non mixé. C'est une aberration. C'est comme si on vous faisait manger un super foie gras et qu'à côté on vous dise, ah bah non, bah vous alors vous allez manger à côté un pâté. Non, pourquoi ? Là, ça se mixe. Donc c'est vrai que on voit tout de suite la différence. Et pour les personnes qui sont dans les centres dans lesquels on va, qui sont des personnes en situation de handicap, on va donc faire des campagnes de pesée et on va avec nos balances et on pèse devant tout le monde. On est dans une démarche, je dirais, de développement durable global dans l'établissement la semaine où on est là. On parle de gaspillage. Et on est surpris parce qu'il y a des jeunes adultes qui nous aident, autistes en l'occurrence, qui savent lire. S'ils arrivent à lire, on a des balances digitales, qui vont venir, qui vont nous aider à peser, à jeter, à lire. Enfin, il y a un vrai engouement par rapport à une vraie prise de conscience du gaspillage et après de ce qu'ils ont dans l'assiette, qu'il ne faut pas gaspiller. Enfin, la démarche de gaspillage alimentaire est hyper vertueuse sur l'échange, la convivialité, le fait de s'impliquer dans la démarche. Voilà. Donc c'est un tout en fait, c'est-à-dire qu'on tire une espèce de fil et on est dans une démarche holistique, je dirais presque, puisqu'on touche tout.
Vous êtes dans une vraie démarche globale.
Ah oui, là on est en train, j'espère qu'on va pouvoir faire cette démission à la rentrée dans laquelle on prévoit une intégration de certaines personnes en situation de handicap avec leurs éducateurs, coachés par leurs éducateurs, pour pouvoir nous aider à faire les pesées.
Et pour les recettes, vous parlez de la pizza mixée ou du hamburger mixé, ce sont des choses que vous avez apprises sur le tas ?
Alors nous, on sait que ça existe, enfin, mais ce n'est pas nous du tout qui travaillons ça, c'est les chefs de la restauration, et il y a des formations pour ça, qui sont adaptées, hein, justement, parce qu'il faut respecter un certain nombre d'hygiène, donc nous, là-dessus, on est juste force de proposition. Je dirais un peu pour ouvrir les chakras et pour dire voilà, il y a des choses qui existent. Après, nous, notre rôle, c'est vraiment se limite au diagnostic de gaspillage, à la revue du plan alimentaire et à la revue des menus. Mais nous, on est plus là pour ouvrir d'autres propositions. Et voilà, il y a même des chefs de la restauration collective, alors qu'ils sont en cuisine internalisée. Là, j'ai été vendredi sur une restitution qui a dit, je vais m'abonner à des revues de cuisine pour avoir d'autres idées que des idées préconçues de la restauration collective que l'on a. On a toujours les mêmes repas qui reviennent, le poulet basquaise, le bœuf carotte, etc. Non, on peut faire d'autres choses qui viennent de la cuisine quasiment traditionnelle, quoi. Donc quand déjà on entend ça, c'est tout gagné, quoi. Quand on a un chef de la restauration collective d'un centre pour personnes en situation de handicap qui dit « je vais m'abonner à je sais pas quel magazine culinaire pour pouvoir avoir d'autres idées parce que des fois je manque d'idées », c'est super. Enfin voilà, on a déjà tout gagné, quoi.
Oui, vous êtes là aussi pour ouvrir les portes, pour éveiller les consciences.
C'est ça, exactement. Mais toujours dans cette idée d'utiliser le gaspillage alimentaire, pas comme un but en soi, c'est juste un moyen qui nous permet de faire un petit électrochoc en se disant, ah oui, je dépense, parce que nous on travaille dans nos diagnostics, on va dans nos restitutions, on travaille en poids du gaspillage, bien sûr. Déjà, c'est assez choquant quand on parle de tonnes sur un établissement de 60 résidents. Quand on parle en tonnes annuelles, bon, ça fait déjà peur. Notre âme citoyenne écologique en prend un coup. Mais après, quand on commence à parler d'argent, puisqu'on parle d'argent, effectivement, là, ça commence pour la direction, ça donne l'électrochoc qui fait qu'il rentre dans la démarche encore plus volontairement. Quand derrière, on voit qu'il y a bien 500 grammes qui sont donnés aux résidents, mais qu'ils n'en prennent que 250, il peut y avoir des impacts de santé publique sur la dénutrition. Les établissements sont très conscients de ça, et on ne remplace pas du tout les médecins, etc. Ça, ce n'est pas un sujet. Ils sont extrêmement conscients de ça. Ils sont extrêmement conscients qu'il peut y avoir des dénutritions à l'hôpital, de la dénutrition, c'est un vrai sujet de santé publique, ou dans des établissements médico-sociaux, etc. Mais nous, en travaillant sur une semaine et en faisant une simulation, on se rend compte du nombre de grammes pris, concrètement. Et du coup, la direction s'en empare, les médecins s'en emparent. Donc, je dirais que c'est encore même plus large, le gaspillage alimentaire. C'est une porte d'entrée vers la lutte contre la dénutrition ou la lutte, ce qu'on appelle la malnutrition, puisque dans certains établissements, alors c'est pas forcément que c'est mauvais, mais dans certains établissements avec des personnes en situation de handicap, on a plutôt des situations d'obésité, parce qu'on mange beaucoup de féculents, etc., et qu'ils n'ont pas forcément la notion de satiété. Donc si on donne une grosse assiette, la grosse assiette va être mangée. Donc on travaille aussi, nous, sur la condition des prises du repas. Et là, vraiment, on est force de proposition pour accompagner les établissements dans comment on présente de telle manière à ce que le légume, il soit quand même mangé, même s'il y a des féculents dedans. Et donc, nos études de gaspillage peuvent démontrer une certaine forme de dénutrition, enfin, puisqu'effectivement, les grammages sont plus faibles que les grammages cibles, mais aussi peuvent être plus importants que les grammages cibles dans les cas où il peut y avoir de l'obésité. Donc, mais en tout cas, ça permet de corroborer et de se dire, bon, dans les 250 grammes qu'ils ont pris, si c'est de la protéine, c'est une valeur nutritionnelle importante, on se dit que bon, pourquoi pas, mais si c'est 250 grammes de laitage, on peut avoir des carences nutritionnelles. Et ça, nos diététiciennes permettent très rapidement d'accompagner un discours et de mettre le discours en face de ça qui va bien. Parce qu'on pourrait être désemparé face à ça. Un directeur, on lui dit, voilà, vous avez 250 grammes jetés sur les 500 grammes, donc voilà. Vos résidents ne prennent que 250 grammes en moyenne, puisqu'on n'est pas nominatif, mais on est en moyenne. Si on n'a pas un discours derrière très rapidement de diététicienne,
d'accompagnement,
voilà. Donc c'est pour ça que notre mission, elle est vraiment plus large que le diagnostic. Elle commence par ça, et c'est inévitable de commencer par là. Et grâce à la loi Egalim, parce que tous ces établissements-là vont être obligés dès janvier 2022 de faire des diagnostics de gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est une loi, ils ne pourront pas passer à côté.
À raison de un par an, par exemple
ou... Pour le moment, c'est pas défini vraiment. Ils sont, bon, c'est vraiment, ça va être mis en place. Donc les groupes de travail, d'après ce que j'ai compris, là j'étais en lien avec le ministère, les groupes de travail sur les référentiels et les contrôles, vont démarrer en janvier 2022. Donc voilà, ça va, disons qu'on va avancer en marchant, c'est un peu ça. Et tout le monde ne va pas être contrôlé en janvier, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, ça sera obligatoire. Et aux acteurs de la restauration collective qui assurent au directeur d'établissement que pas de problème, le gaspillage il est géré, nous répondons non. Il est géré à leur niveau, au niveau de la production, mais derrière, au niveau de la consommation, c'est pas forcément le cas. Donc il y aura, quoi qu'il arrive, un travail à faire pour que les établissements s'assurent que le diagnostic de gaspillage de consommation soit mis en place dans leurs établissements.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui. Et vraiment, voilà, si la loi Egalim est appliquée, c'est une excellente chose. Si on le prend de manière vertueuse et qu'on ne se contente pas d'aller peser des poubelles. Parce qu'il y a aussi ce travers-là, hein, de se dire, bon,
de
bah voilà,
le strict minimum,
je fais le strict minimum, je prends mes poubelles de fin de service, je pèse mes poubelles et je sais combien j'ai gaspillé. Voilà, ça peut être une caricature de la mise en place de la loi Egalim qui serait très dommageable pour l'enjeu que ça représente.
Combien d'établissements en France aujourd'hui font appel à ces services de restauration collective? Est-ce que vous savez? Ou combien d'EHPAD? Combien de personnes?
Non, je ne sais pas. Je ne peux pas dire au niveau français. Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est très nombreux et que les cuisines internalisées sont de moins en moins. Enfin, ont été de moins en moins importantes, hein, puisque c'était quand même une solution de facilité d'externaliser ça. Et puis voilà, et puis ça, ces établissements-là, ce n'est pas leur cœur de métier, l'alimentation, hein, ce n'est pas leur cœur de métier. Ils sont là pour soigner, ils sont là pour accompagner, et pas forcément pour alimenter, mais enfin, ce n'est pas leur cœur de métier. Donc, ils ont souvent sous-traité cette partie-là. Et j'espère qu'un des impacts de la loi Egalim, ça sera, alors, si ce n'est de réinternaliser, mais sinon d'exiger des sociétés de restauration collective plus de partenariats, et voilà. De toute manière, ils vont être obligés de respecter Egalim, hein, de le respecter dans leur menu, de respecter les 50% de produits à label, etc. Donc on ne peut aller que vers un chemin partenarial et vertueux.
Vous le disiez un peu plus tôt dans l'épisode, mais vous aimeriez tisser du lien aussi avec des producteurs et productrices à l'échelle locale. Mmh. Comment est-ce que vous pourriez travailler avec les établissements et ces partenaires locaux? Est-ce que là aussi, ce serait en étant force de proposition pour des modifications dans les menus? Comment est-ce que ça pourrait se passer, ces partenariats-là?
Alors, des partenariats, pour le moment, on n'a rien mis en place et c'était pas du tout notre objectif à court terme parce qu'on est quand même une société qui a très peu de, finalement, qui a une grande expérience de plus de 4 ans, mais associative, et je dirais qu'à titre commercial, quelques mois, hein, donc on n'a pas encore vraiment tissé de partenariat. Néanmoins, déjà, ce que l'on fait, c'est quand les établissements nous confient la revue de leur plan alimentaire et de leur menu, il est bien évident qu'on on intègre un maximum de produits de saison et de produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, dans la loi Egalim, on parle de produits à label et de produits bio, mais le statut, je dirais, de local n'est pas vraiment identifié pour le moment. Mais je sais que ce sont des réflexions qui vont être menées. Donc nous, clairement, déjà dans les menus, on intègre énormément de produits locaux. Ensuite, les diététiciennes qui interviennent avec nous dans le cadre de Wasteco ont travaillé dans des structures qui font de la restauration, enfin, comme des hôpitaux, comme des EHPAD, etc. Elles ont elles-mêmes travaillé dans ces structures-là et ont des liens déjà. Voilà. Donc elles vont conseiller des structures qui permettent, ou des producteurs qui permettent de pouvoir les alimenter. Parce que la problématique quand même dans la restauration collective et par rapport aux producteurs, c'est que dans les grands établissements, il faut du volume. Et ça peut être complexe parce qu'on ne peut pas assurer les X tonnes de radis, je dirais, tous les jours, chaque fois qu'il y en a besoin, parce que l'agriculture, c'est lié au climat, c'est lié à plein de facteurs qui font que le volume est difficile à assurer de manière régulière et récurrente. L'avantage qu'on a, nous, quand on travaille dans les EHPAD et dans les petites structures comme les IME, les femmes, c'est qu'il y a peu de résidents. On est sur 60 résidents, donc on a moins de volume. Et là, pour le coup, effectivement, le rapport, enfin le lien et l'approvisionnement en circuit court est plus aisé. Voilà. Donc en fait, nous, à date, on préconise l'utilisation de ces produits-là, mais on ne met pas en lien aujourd'hui l'établissement avec les producteurs locaux.
Oui, là encore, votre rôle, c'est aussi d'ouvrir la réflexion.
Exactement.
De venir nourrir l'échange, mais pas forcément de créer un partenariat.
Voilà, nous, notre leitmotiv, c'est l'alimentation est un soin. Et quand on mange correctement, ça c'était Hippocrate, hein. C'est l'alimentation, c'est le premier médicament. Hein. Donc voilà. Donc nous, vraiment, notre leitmotiv, c'est ça, c'est l'alimentation est un soin et comment faire en sorte que cette alimentation devienne au cœur du projet d'établissement, quelque chose d'ancré, de fondamental. Et je dirais que vraiment, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de faire ce transfert de compétences pour que les établissements deviennent autonomes et que ça puisse devenir une habitude et une récurrence chez eux que de travailler sur le diagnostic, que de changer les menus rapidement, enfin régulièrement, pardon, rapidement et régulièrement, de telle manière à ce que vraiment, voilà, ça puisse devenir une habitude. Souvent, dans ces établissements-là, on a un menu sur un cycle de menu de 6 semaines qui se reproduit, et puis vous allez 3 ans plus tard, on a toujours le même cycle de menu de 6 semaines. C'est-à-dire que le lundi d'il y a 6 semaines, on a mangé la même chose que le lundi. Voilà, il n'y a pas de... Et ça peut durer sur des années entières, hein, vraiment. Donc, nous, l'idée, c'est de se dire non, appropriez-vous notre outil, appropriez-vous ce diagnostic, analysez vous-même ce qui est jeté sans être mangé par les résidents, et voyez avec une diététicienne, les nôtres ou les vôtres, de changer les menus régulièrement. C'est comme si vous, on vous disait, voilà, bah jusqu'à la fin de vos jours, vous allez manger tous les lundis de la semaine 1 du poulet, tous les mardis de la semaine 2 du porc, et toujours cuisiner de la même façon.
C'est pas possible déjà que sur une semaine, je change de petit déjeuner.
Voilà, et puis, 6 jours sur 7. Alors ça, c'est sur le changement. Et puis alors aussi, on a des diététiciennes qui déculpabilisent énormément les chefs de cuisiniers de ces établissements-là, puisque de la même façon, si on a des fruits sur 6 semaines, si on a des fruits à tous les fins de repas, souvent on se dit on va les changer, c'est-à-dire qu'on va mettre une fois de l'ananas, une fois du kiwi, une fois de la pomme, une fois de la poire, une fois de la fraise, une fois, voilà. Mais en fait, nous, chez nous, est-ce qu'on change de fruits tous les jours sur 6 semaines? Pas du tout. Voilà, soit on doit manger la même chose de 6 semaines en 6 semaines de manière récurrente, et voilà, tout comme je vous expliquais. Ou même, on doit changer les fruits tous les jours.
Oui, à l'inverse, aller vers trop de diversité.
Parce que moi, on se retrouve aujourd'hui avec une semaine de menu la semaine dernière. J'étais sur une restitution, enfin sur un établissement où il y avait ananas, kiwi, pomme, poire au sirop et le dernier, je ne sais plus ce que c'était. Et on ne trouve aucun abricot, aucune pêche, rien du tout. Alors, ça coûte cher. Clairement, hein, c'est des fruits qui coûtent cher. Mais justement, l'idée, c'est de rééquilibrer le menu de manière hebdomadaire pour se dire, ben voilà, si on met de l'abricot le lundi, ben on mettra peut-être un yaourt le mardi. Notre diététicienne, c'est même pas moi, hein, puisque moi, c'est pas mon métier, je n'en ai absolument pas les compétences, mais les diététiciennes qui nous accompagnent dans l'aventure Wesco sont extrêmement déculpabilisantes par rapport à ça, et en disant, il faut qu'ils mangent comme chez eux, quoi. Comme nous, on en mangeait, on se... Donc, vous voyez, enfin, c'est vraiment une démarche globale de changement, de révolution de l'alimentation dans la restauration collective.
C'est passionnant. Et on n'a pas évoqué la question des cantines scolaires. Pour autant, c'est un centre de restauration collective. Est-ce que là aussi, c'est un de vos objectifs de développement ou pour l'instant, pas vraiment? Vous êtes plutôt sur ces populations plutôt fragiles et fragilisées?
Alors, c'est un concours de circonstances, nous ne sommes pas allés dans les cantines, mais c'est un axe de développement pour nous fort. Il faut savoir que les établissements médico-sociaux dont je vous parlais, ou les établissements de santé, sont en retard par rapport au gaspillage alimentaire, à cette notion-là, par rapport à la cantine scolaire. Les cantines scolaires s'y sont mis il y a plusieurs années déjà, où on voit des tables de tri, par exemple, dans les collèges, c'est quelque chose qu'on voit. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas allé vers là, au-delà du projet de cœur, hein, parce que voilà, j'imagine senti qu'on était vraiment sur un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Hein, on est vraiment dans quelque chose d'assez intuitu personnel là-dessus. Mais néanmoins, sur les cantines, on savait qu'il y avait des choses qui se faisaient. Mais par contre, on vous souhaiterait quand même se développer dans cette partie-là pour l'aspect nutrition-santé. Parce qu'en fait, le gaspillage alimentaire et la maîtrise du gaspillage alimentaire dans les collèges, lycées, enfin dans le scolaire, est venue par le déchet. Plus par le déchet, par la partie écologie, développement durable, compost, biodéchets, etc. Plus par là que par la nutrition santé tel qu'on l'entend nous. Donc je pense qu'il y a des choses à faire effectivement en faisant intervenir des diététiciennes comme on le fait nous dans le cadre de scolaire parce qu'on sait qu'il y a une certaine forme de fragilité dans certains établissements liée au fait que certains enfants ne prennent qu'un repas par jour hein, dans certaines régions de France, enfin villes de France, ne prennent qu'un repas par jour et il a la cantine. Et donc cette notion-là, alors les cantines le font déjà probablement très bien, mais en tout cas nous on aimerait voilà, se développer plus sur cette population-là d'établissements qui quelquefois ne bénéficient pas de diététicienne par exemple, d'expertise de diététicienne et voilà. Et donc c'est un axe de développement pour nous clairement.
Et des établissements qui s'adressent aussi à ces enfants plus défavorisés.
Exactement, voilà. Où il y a une certaine forme de fragilité. Enfin, voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Et donc, voilà, une certaine forme de fragilité. Donc, où, effectivement, si le repas à la cantine est pris, si c'est un seul repas qui est pris à la cantine, effectivement, cette notion de nutrition santé nous intéresse beaucoup. Enfin, de le prendre par ce côté-là et de mettre à disposition nos diététiciennes pour, voilà, peut-être travailler les menus aussi. Tous les établissements scolaires, comme les établissements dont j'ai parlé précédemment, n'ont malheureusement pas la possibilité de s'offrir les services de diététicienne aussi. Hein. Donc voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, mais vraiment le gaspillage alimentaire comme un levier pour favoriser l'alimentation santé, nutrition.
Très intéressant. Ce qu'on peut demander aux auditeurs et aux auditrices de Basilic, c'est de vous mettre en relation avec les établissements de... de santé dans lesquels ils ont l'occasion de se rendre pour rendre visite à leurs proches ou s'ils nous écoutent depuis un établissement de santé aussi, qu'ils n'hésitent pas à contacter Wasteco et à vous mettre en relation. Je trouve que c'est vraiment une démarche originale et qui fait sens. Qui fait sens parce qu'on a tous ce rapport à l'alimentation, on aime tous bien manger, on aime tous se régaler. Merci beaucoup.
Merci
de nous avoir
Jeanne.
Consacré ce temps-là. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un point d'ici quelques années pour voir comment ça a évolué et où ça vous a mené.
Merci beaucoup, merci mille fois.
Merci à vous. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à consulter la barre de description de l'épisode pour retrouver toutes les informations citées durant notre échange. J'espère que le parcours de Sandra et son projet pourront vous inspirer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt !